Voilà, bonjour à tous. Alors merci d'être venus nombreux et merci de nous avoir invités aussi en famille ici. On est heureux de vous voir. On vient de Düsseldorf avec Isabelle et aussi Yatina qui est avec nous. Et on est donc très heureux d'être là aujourd'hui. Alors on m'a proposé de m'inscrire dans votre cycle de réflexion, de messages sur l'adoration. Et parmi les différentes propositions, j'ai choisi celle de l'offrande de nos corps qui est dans le chapitre effectivement 12 des Romains. Donc je propose qu'on fasse la lecture de ces deux versets. Il y aura quelques autres textes après, mais les deux versets donc de Romains 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Donc c'est ça notre. Et il commence effectivement par « Je vous exhorte donc ». Dans le « donc », il y a un peu la conséquence de ce qu'on a eu sûrement avant. Et c'est vrai que nous sommes à une charnière de l'épître aux Romains. Une charnière, puisque l'épître aux Romains, on peut la couper facilement en trois parties. Et là, il y a des petits moyens mnémotechniques. Les Anglais aiment bien ça. Frère McGee en particulier aime beaucoup les parties qui commencent toutes par la même lettre. Donc on a trois parties. Chapitre 1 à 8, le salut. Chapitre 9, 10 et 11, dans les Romains, on va parler d'Israël, de son passé, de son présent, de son futur. Mais pour trouver quelque chose qui commence par S, il a trouvé le mot ségrégation, donc le fait que les Juifs étaient tout à fait différents des nations et qu'ils ont toute une histoire à gérer à part. Salut! Ségrégation, et on arrive ici, chapitre 12, 13, 14, 15, 16, le service. Salut, ségrégation, service, 1 à 8, 9, 10, 11, 12, et jusqu'à la fin. Et on est à la charnière de ce « Je vous exhorte donc ». On peut chercher aussi trois autres lettres. Doctrine, tout le début de l'Épître aux Romains. Doctrine, lettre D. Dispensation. Il y a un mot très technique de théologie, mais qui veut dire que Dieu a différentes façons de s'occuper des différentes personnes autour de l'histoire, donc les Juifs, les nations, dispensation, et puis duty en anglais ou devoir en français. Donc doctrine, dispensation, devoir. Et on peut faire un dernier en trois, et cette fois-ci c'est pas avec trois mêmes lettres, mais c'est les premiers chapitres 1 à 8, la foi. 9, 10, 11, l'avenir d'Israël et des nations, c'est l'espérance. Et puis maintenant, la pratique, ça va être l'amour. Foi, espérance, amour. Il y a combien de parties dans les Romains? Il y a trois parties dans les Romains et on est à la charte. Je vous exhorte donc. Dans « je vous exhorte », il y a un petit côté, c'est pas « je vous commande ». C'est pas « je vous commande », c'est pas l'apôtre Paul qui va commander, mais il y a un côté « je vous pousse, je vous encourage ». Mais quelque part, ce n'est pas « je viens mettre la pression extérieure », mais je m'attends plutôt à ce qu'il y ait une pression intérieure qui va justement découler de tout ce qu'on vient de présenter jusqu'au chapitre 11. Et le chapitre 11 des Romains, la présentation était tellement magistrale qu'à la fin, il n'a pas pu s'empêcher d'adorer. Et en écrivant, il y a toute la fin du chapitre 11, tout le dernier paragraphe, qui est ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire une adoration écrite de lui-même. Il ne peut pas s'empêcher. Alors, ce « donc » veut dire que tout ce qui a précédé va être le fondement, le moteur, la motivation pour ce qui nous occupe maintenant, présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Mais je vous exhorte par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu, c'est donc les miséricordes de Dieu. Un autre texte serait « Le Dieu est le Père des miséricordes » dans 2 Corinthiens 1. Dieu répond aux besoins de l'homme. Et en fait, tous les Romains nous ont montré ses miséricordes, nous ont montré son cœur, finalement, le cœur de Dieu. Et c'est le cœur de Dieu, sa façon dont il s'intéresse aux hommes et qu'il répond à leurs besoins, c'est ça qui va nous motiver dans l'orientation de nos vies. On est motivé, on est poussé par les compassions de Dieu. Dans la plupart des religions, on fait des sacrifices, on offre des sacrifices pour obtenir les compassions de Dieu. Et dans le christianisme, c'est tout l'inverse. Dieu donne ses compassions. Et en réponse, alors, il y a le sacrifice de nos corps. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps. Présenter. Alors, c'est le même mot que quand les parents du Seigneur Jésus ont présenté leur petit bébé, en Luc chapitre 2, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et Jésus est notre modèle dans cette consécration, ce sacrifice de nos corps. Et ça commence, tout bébé dans son cas, il est présenté au Seigneur et on sait que le vieux Siméon va même le prendre dans ses bras et va voir déjà un peu la croix plus loin, la souffrance, et le dira à sa maman en disant qu'une épée va transpercer l'âme de Marie. Donc cette présentation du tout début va être dans son cas, il est incarné, il est venu sur la terre pour accomplir son œuvre et il avait en vue l'offrande de son propre corps en sacrifice. Présentez vos corps. Alors, vos corps en sacrifice vivant, ceux qui ont une autre traduction, vous avez sûrement vous offrir vous-même. Ceux qui n'ont pas le mot corps, hein, vous avez plusieurs traductions, n'ont pas le mot corps, et pourtant qui est dans l'original, parce qu'en fait, bien sûr, l'idée c'est que ça ne va pas être que je ne vais pas juste présenter mon cœur, ce n'est pas que je m'offre à Dieu dans mes pensées, et il y a aussi ma bouche. Il y a mes mains, il y a mes pieds, il y a toute ma personne. Donc, il y a à côté, c'est toute ma vie entière que je vais orienter, que je vais donner en réponse à l'amour du Seigneur et en réponse à ses compassions. Donc, c'est bien le corps. Et juste après, on a lu l'entendement, donc la pensée. Donc, il y a dans nos deux versets, il va y avoir d'abord le corps et ensuite l'entendement. Présentez vos corps en sacrifice vivant. Ce mot sacrifice, c'est vraiment celui qui, dans l'Ancien Testament, parle des sacrifices d'animaux. Et pour en être sûr, dans ces cas-là, pour vérifier le vocabulaire, on regarde, tiens, donc ce mot-là, dans le Nouveau Testament, en grec, il est utilisé dans quoi ? Et par exemple, il est dans l'Épître aux Hébreux une quinzaine de fois, vraiment, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique tous les sacrifices de l'Ancien Testament, il utilise ce mot-là. Donc, on nous propose vraiment, ici, d'offrir nos corps en sacrifice. Donc, le sacrifice, c'est vraiment les animaux que l'on offrait, qu'on devait égorger dans l'Ancien Testament, qu'on mettait sur le feu. Donc, c'est ça. Mais alors, sacrifice vivant. Donc, il y en a qui rentrent au collège ou au lycée demain. Donc là, un petit peu de grammaire. Un sacrifice, c'est vraiment mort. Mais un sacrifice vivant, c'est une figure de style, et je crois avoir vérifié que c'est un oxymore. Bon, ceux qui savent, hein, moi je ne sais pas bien. Mais en tout cas, ça se choque quand même, un sacrifice vivant. Sauf qu'on a un exemple, c'est que le Seigneur Jésus, lui, s'est offert en sacrifice, et il est maintenant vivant. Donc, ce qui nous est proposé, c'est effectivement que nos propres corps vont être offerts en sacrifice, référence à, vraiment au sacrifice dans ce testament, mais on est vivant, on a sa vie, il est le ressuscité, il est notre modèle, et notre vie, elle lui est consacrée, on est à sa suite, parce qu'il est notre modèle, il est notre énergie, et il nous a communiqué la vie. Mais il y a une référence très forte au sacrifice de l'Ancien Testament dans ce texte. Et cette référence, elle va devenir un peu plus claire avec les mots suivants. Vos corps sont en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, sacrifice saint, oui. Le Seigneur Jésus, bien sûr, lui, dans sa vie, était parfait, était saint. Et quant à nous, si on est offert au Seigneur, c'est on n'offre pas au Seigneur notre vie médiocre. C'est pas la pensée. La pensée, c'est qu'il transforme notre vie et elle lui est consacrée. Et il la remplit par son esprit. Et l'Épître aux Romains, chapitre 8, a décrit comment le Saint-Esprit va nous aider dans la vie, va nous aider à vivre pour lui, dans la sainteté, qui veut dire être séparé pour Dieu, qui veut dire être dans la pureté. Donc le Saint-Esprit nous aide et ce sacrifice de notre vie, il est saint parce qu'on est nourri, on est aidé par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit, séparé du mal, consacré à Dieu. Et il est agréable. Agréable à Dieu. Pleinement agréable à Dieu. Là aussi, ce mot, si on regarde un petit peu, on a un exemple chez les Philippiens. Ils avaient envoyé un don à l'apôtre Paul. Et dans l'Épître aux Philippiens, le don financier des Philippiens, cet apôtre qui était en prison à l'époque à Rome, sa premier emprisonnement, eh bien, il avait reçu cet argent et c'était un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Donc, ce que vous avez fait pour moi, là, dans la prison, c'est un parfum de bonne odeur et c'est agréable à Dieu. Donc, c'est déjà peut-être un premier exemple, tiens, très très concret, sacrifice de nos corps agréable à Dieu, eh bien, un don, quelque chose que je vais offrir pour le service peut-être de l'Église, c'est peut-être déjà ça, voilà, c'est agréable à Dieu, c'est un parfum agréable. Et si on pense au Seigneur Jésus, il s'est lui-même livré pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Donc lui aussi, c'est un texte du Nouveau Testament, il s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Ça veut dire que le Seigneur a été à sa naissance présenté, comme on l'a vu le petit bébé. On le voit présenté à sa naissance, on le voit dans sa vie comme quelqu'un qui remplit le cœur de Dieu, quand Dieu déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir », donc il est agréable à Dieu dans sa vie. Et puis il est agréable à Dieu dans sa mort. Il est un parfum de bonne odeur aussi dans sa mort. Si on pense maintenant au sacrifice de l'Ancien Testament, c'est pour ça que j'ai demandé le tableau ici. Il y en a cinq, il y aura beaucoup de papier. Donc, il y a cinq sacrifices dans l'Ancien Testament. Et sur les cinq, il y en a trois qui sont de bonne odeur. Et deux, pour le péché et pour le délit, mais pas parler de bonne odeur. C'est un sujet qui est un peu dur. Mais les trois premiers sacrifices, donc le premier, c'est l'Holocauste. Troisième livre de Moïse, donc Lévitique, troisième livre de la Bible, Lévitique chapitre 1. On lit deux versets pour bien se rappeler ce que c'est qu'un holocauste. « Lévitique chapitre 1, verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera, un mâle sans défaut, il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé devant l'Éternel. Et au verset 9, et il lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Donc, holocauste, comme on le comprend en français, c'est le tout, hein, c'est tout est brûlé. Brandopfer en allemand. C'est vraiment tout est brûlé. C'est un sacrifice entièrement pour Dieu. Donc, holocauste, on va dire pour Dieu, entièrement pour Dieu. Le deuxième est aussi un sacrifice de bonne odeur, c'est au chapitre 2, c'est ce qu'on appelle l'offrande de gâteau ou de farine. Lévitique chapitre 2 verset 1, et quand quelqu'un présentera en offrande une offrande de gâteau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine, et il versera de l'huile sur elle et mettra de l'encens dessus. Et il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur prendra une pleine poignée de la fleur de farine et de l'huile avec l'encens, et il en fera fumer le mémorial sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et au verset 4, il y avait différentes options, et là c'est l'option gâteau. Et si tu présentes une offrande de gâteau cuit au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain pétris à l'huile. Et des galettes sans levain ointes d'huile. Donc on a dans ce deuxième, on va après ça l'offrande de gâteau, gâteau de farine. Il y a beaucoup d'huile. Et on pense à cette farine blanche, cette belle farine fine qui va être offerte. Elle fait bien sûr penser à du pain. Pain sans levain, si on lisait un peu plus loin, sans péché, sans rien, c'est Jésus. Dans sa perfection, la perfection de son humanité. Il est farine, il est pain, il est venu sur la terre. Mais il est pétri à l'huile. L'huile du Saint-Esprit, il est oint d'huile. Et il y a l'encens de la bonne odeur. Donc il est cette bonne odeur pour Dieu. Et quand nous le contemplons, il est, lui, il dit, je suis le pain du ciel. Je suis le pain de Dieu. Donc il était nourriture pour Dieu et il était nourriture pour nous. Il était venu du ciel. Et il est cette offrande de gâteau pétrie à l'huile, ointe d'huile. C'est vraiment la beauté de sa personne quand nous le contemplons dans sa vie, dans son humanité. Il est le pain, on l'a pris aussi ce matin, le pain. C'est le souvenir de son corps, de sa personne qui était parfaite. Une offrande de gâteau. Toute sa personne était une offrande dans sa vie. Odeur agréable à l'Éternel. Et la troisième qui est, donc c'est le sacrifice de alors prospérité, paix, communion. On a plusieurs traductions possibles, c'est un peu difficile à trouver une bonne, mais on le comprend au chapitre 3, Lévitique chapitre 3, verset 1. Si son offrande est un sacrifice de prospérité, si c'est du gros bétail qu'il présente, soit mâle, soit femelle, il la présentera sans défaut devant l'Éternel. Verset 5 à la fin. Et on la mettra sur le bois qui est sur le feu. C'est un sacrifice fait par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et pour comprendre qu'il était partagé avec tout le monde, donc la différence avec l'holocauste, c'est que si j'offre un holocauste, il n'y a rien pour moi. Hein? Tout pour Dieu. Alors que si j'offre un sacrifice de prospérité, c'est un peu un méchoui. C'est un peu un méchoui. C'est en famille. On va prendre un sacrifice de prospérité, mais on l'offre à Dieu d'abord, avec une partie pour Dieu et une partie pour le sacrificateur. Mais ensuite, on le mange tous ensemble. Et pour ça, il faut aller au chapitre 7, juste pour se repérer. Lévitique chapitre 7, verset 15. Lévitique chapitre 7, verset 15. « Et la chair de son sacrifice d'action de grâce, de prospérité, sera mangée le jour où elle sera présentée. On n'en laissera pas jusqu'au matin. » Et verset 19 à la fin. « Quant à la chair, donc la viande, quiconque est pur en mangera la chair. » Donc, pas de problème, c'était vraiment pour être partagé. Donc on a les deux autres sacrifices pour le délit et sacrifice pour le péché, on n'en parle pas, ce sont ceux qui ne sont pas en odeur agréable. Il y a trois sacrifices agréables dans l'Ancien Testament, ce sont ces trois-là. Et les trois nous parlent d'abord du Christ. Le Christ entièrement donné pour Dieu, holocauste, il a une bonne odeur dans son sacrifice pour Dieu, avant de toujours penser à soi, on pense à Dieu. Le Christ sur la croix est d'abord pour Dieu, il s'est offert pour lui. Holocauste. Ensuite, il a une vie parfaite, pétrie à l'huile, oint d'huile. Et c'est beau, c'est bon, on en est nourri dans notre vie. C'est la fleur de farine, c'est le gâteau. Et puis enfin, il est sacrifice de paix, c'est-à-dire de communion, de prospérité, d'être ensemble. Il est le centre de la communion, il est le centre de l'Église, les chrétiens qui viennent vers lui, manger le pain et le vin, mais aussi être ensemble. Il est celui qui réunit autour de lui, celui qui attire à lui, c'est le sacrifice de paix, de communion, de prospérité. Il a fait la paix par le sang de sa croix, et grâce à sa croix, nous sommes dans sa paix. Trois sacrifices de bonne odeur. Et donc, ça commence à devenir très concret pour nous, chapitre 12 des Romains. Parce que le sacrifice de nos corps, il doit être vivant, on l'a dit. On présente nos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Donc, on va offrir un sacrifice de nos corps qui a un peu ces dimensions-là. Et la première chose, c'est que j'offre ma vie. Première chose, c'est Dieu est la priorité. Il est numéro un. C'est l'Holocauste. C'est tout pour lui. Donc, dans ma vie, dans ma consécration, toujours d'abord se rappeler Dieu premier. Priorité à Dieu. Mais dans ma vie, dans ma consécration, il y a aussi le côté que la sainteté de ma vie, la beauté de ma vie, ce que Dieu permet, eh bien, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a dans le sacrifice du corps pour Dieu le fait de mener une vie qui soit à sa gloire, une vie qui soit belle, une vie qui soit nourriture pour les autres, une vie qui est belle à voir, parce que pétrie à l'huile, ointe d'huile, donc le Saint-Esprit, Romains 8, nous aide à avoir une vie qui l'honore, une vie de pureté. C'est agréable pour le Seigneur, c'est une motivation pour nous laisser sanctifier par le Saint-Esprit. Et enfin, le sacrifice de nos corps, eh bien, c'est une vie de communion, de partage, les uns avec les autres, et le fait d'être disponible pour les autres, le fait de se dépenser pour les autres, le fait d'avoir du temps à consacrer à l'Église, à la communauté, au bien du peuple de Dieu, eh bien, c'est l'offrande de nos corps, et ça peut revêtir toutes les dimensions. Hein. On a illustré tout à l'heure avec les Philippiens qui avaient donné de l'argent, mais on peut donner du temps, de l'énergie, se dépenser, c'est un sacrifice, donner un coup de main, être disponible pour les autres, participer à un projet communautaire, c'est le sacrifice de prospérité, le sacrifice de paix, le sacrifice de communion. Donc, présentez vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, eh bien, c'est couvrir un peu ces trois dimensions. Donc, voilà une interprétation que je vous ai proposée, une explication du texte. Et on va la continuer, mais on fait une petite pause là, parce que je propose maintenant deux applications. Juste pour la nuance, interprétation, c'est on explique, on essaie de donner un sens, pas forcément le sens, mais un sens, une explication. Et application, c'est on en prend ça et on se dit, tiens, je l'applique à une circonstance de ma vie ou à... Et je propose d'abord une première application au couple. Si on applique ça au couple, offrir son corps dans le couple, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire priorité Dieu. Dieu est d'abord ma priorité. Même dans le couple. Mais ça veut aussi dire beauté de la vie, offrande de gâteau, ça veut aussi dire que dans le couple, avoir une vie de pureté, de fidélité, c'est aussi offrir son corps à son conjoint. Être dans la pureté et dans la fidélité, c'est offrir son corps à son conjoint. Et bien sûr, c'est une joie aussi pour le conjoint d'avoir un conjoint qui vit avec Dieu. Donc c'est aussi une nourriture pour le conjoint. Et l'aspect communion, l'aspect être ensemble, peut, c'est bien sûr passer du temps ensemble, c'est se être l'un pour l'autre, y compris bien sûr dans la relation du corps qui est expliquée très bien dans 1 Corinthiens 7. Voilà une application possible en trois dimensions au couple. On peut l'appliquer aussi aux amis. Pourquoi aux amis? Parce que Jean 15, nous dit « Personne n'a un plus grand ami que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. » Jean 15, verset 13. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire le sacrifice de nos corps pour nos amis? Eh bien, ça revient aussi là. C'est d'abord priorité Dieu. Priorité Dieu, holocauste. Si j'ai des gens avec qui je suis bien, que j'aime, je veux partager, priorité Dieu. Je commence toujours par le Seigneur en premier. Mais après, il y a la beauté de la vie. Et c'est vrai que d'être en contact avec des gens qu'on aime et qui nous montrent quelque chose de Dieu, ça nous nourrit. Et donc, on peut dire merci quand on rencontre quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un qu'on aime bien, et on y voit l'huile du Saint-Esprit, on y voit la beauté de sa vie. Et puis, bien sûr, on pourrait souhaiter avoir, nous aussi, une belle vie qui va nourrir l'autre. Et ensuite, alors, évidemment, dans le sacrifice de prospérité, de communion, il y a toute la dimension du partage, de l'échange, de s'aider l'un l'autre, de se prêter main forte aussi, et de s'écouter l'un l'autre, d'être disponible l'un pour l'autre, de partager l'un pour l'autre. Donc voilà deux applications après l'interprétation. Présentez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, les trois sacrifices agréables, ce qui est votre service intelligent. Alors, votre service intelligent, qu'est-ce que ça veut dire, service intelligent? Bon, toujours même méthodologie, en général ça aide, on se dit, ben, le mot service, il veut dire quoi et il est quoi dans la Bible? Et en fait, dans le Nouveau Testament, il n'est que 5 fois, il n'est que 5 fois, dont ici, donc il n'y en a que 4 autres, pour nous faire comprendre. Alors Jean 16 nous dit, quiconque vous tuera, pensera rendre service à Dieu. Vous aimez les prophéties accomplies? C'en est une, hein? Jésus, il y a 2000 ans, prédit qu'un jour, il y aura des gens qui tueront les chrétiens en pensant rendre service à Dieu, rendre culte à Dieu. Ça a été vrai, malheureusement, des chrétiens entre eux. Dans le Moyen-Âge ou autre, où les chrétiens, pensant faire du bien pour Dieu, tuaient d'autres chrétiens, ou bien d'autres hommes. Et on sait malheureusement qu'il y a des mouvements extrémistes aujourd'hui qui tuent des chrétiens en pensant rendre service, adoration à Dieu. On a ici une prophétie parfaitement accomplie. Romains 9, les Juifs, ok, donc dans notre partie dispensation, vous vous souvenez, tout à l'heure, ségrégation, dispensation, ou espérance, Romains 9, auquel, donc les Juifs, auxquels sont la loi et le service divin. Donc vraiment, l'adoration, le culte, le service divin, c'est ça. Et puis Hébreux 9, toutes ces ordonnances sont pour le culte, service, les sacrificateurs accomplissent le service. Donc vraiment, on est au milieu du dossier, là. Le service, donc Romains 12, offrir son corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, votre service intelligent, en fait, c'est le culte. En fait, c'est la messe. En fait, c'est l'adoration. C'est le culte. C'est le moment où on sert Dieu. On le sert par nos vies, par nos corps. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on a fait ce matin, c'était plutôt un moment où on a servi Dieu avec le sacrifice de nos bouches, avec la louange, avec des cantiques, avec des prières. Et c'est bien, ça c'est bien expliqué au chapitre 13 des Hébreux, où on a la notion que le culte, le service pour Dieu, mais il n'y a pas le mot service, Mais on adore Dieu, on adore Dieu, verset 15, Hébreux 13, verset 15, offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, donc là on a bien le mot sacrifice, c'est-à-dire le fruit qui confesse son nom, voilà. Donc un sacrifice moderne pour Dieu, c'est un sacrifice de louange où on va prononcer des prières, chanter des cantiques, lire des textes en adoration à Dieu. Donc, offrons par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, mais n'oubliez pas la bienfaisance, donc, et de faire part de vos biens, donc tout ce qui est don matériel pour le bien des autres, ou pour vraiment venir en aide aux gens, ou bien pour soutenir, on va dire, l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Donc on a bien, dans la louange, dans le culte, quelque chose de très spirituel, avec des paroles, avec des cantiques, avec des lectures, et de très pratique, avec des dons, pour être, ce sont des sacrifices pour Dieu. Mais en fait, on a vu que le grand sacrifice pour Dieu, le grand service pour Dieu, le grand culte, c'est le sacrifice de nos corps. C'est le fait d'avoir notre priorité avec le Seigneur, d'avoir une vie qui l'honore et d'être dans le partage avec nos frères et sœurs. Et c'est ça notre culte, c'est ça notre messe, c'est ça notre service chrétien. Ce qui fait que ça serait une grave erreur d'opposer les chrétiens contemplatifs qui adorent aux chrétiens actifs qui servent. C'est impensable de les opposer, puisqu'il faudrait les deux pour un bel équilibre, puisque les deux sont le culte. On l'a vu dans Hébreux 13. Il faut adorer. Priorité, il faut adorer. Mais on est au service, on est dans la pratique, on est dans une vie qui l'honore. Donc on n'oppose jamais, s'il vous plaît, les personnes qui sont plutôt dans l'action avec les personnes qui sont plutôt dans la contemplation. Ils se complètent, il y a besoin des deux. Il y a besoin des deux. Alors ce service est intelligent, logique, le mot grec c'est le mot logique, mais... Un Pierre 2, désirait le pur lait intellectuel afin que vous croissiez. C'est raisonnable, c'est intelligent. Je crois que ça veut dire, en fait, c'est la suite logique de ce qu'on a lu dans toutes les compassions de Dieu. C'est votre service logique, mais c'est aussi votre service spirituel, intelligent. Spirituel, ça veut dire que c'est de nouveau un paradoxe, un peu. Le sacrifice de nos corps qui a l'air d'être assez pratique. Eh bien, c'est votre culte, c'est votre service chrétien spirituel, intelligent, logique. C'est la suite logique, mais c'est aussi spirituel. Voilà donc notre verset un petit peu décortiqué. Et si on passe au verset 2, rapidement, terminé. Et ne vous, donc Romains 12, verset 2, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Alors, ne vous conformez pas à ce siècle, c'est-à-dire ne vous conformez pas à l'esprit du monde, ne vous conformez pas à l'esprit du siècle, c'est-à-dire à la pression permanente qu'il y a autour de vous, la pensée unique. Dans conformer, il y a la forme, en allemand, c'est le moule. Donc ne vous mettez pas dans le moule de la pensée unique, de ce que tout le monde pense. Hein. Et c'est un peu l'alternative au sacrifice de nos corps, ça serait de suivre le mouvement, de nous mouler, de prendre la forme des habitudes du monde. Et le monde, il hait les non-conformistes. Il n'aime pas les gens qui ne vont pas comme tout le monde. Donc le monde, il aimerait bien que tout le monde pense pareil, qu'on soit un peu entraîné dans une façon de penser, et on est très très influencé par tout ce qui se passe forcément autour de nous, ça nous influence dans nos pensées. Donc l'alternative à être à nous conformer, donc à nous laisser prendre le moule dans le monde, c'est d'être transformé. Donc ne soyez pas conformes, mais transformés. Verset 2 au milieu, mais soyez transformés. Encore un peu de grammaire, c'est un impératif passif. Donc ça veut dire que c'est un impératif, mais ce n'est pas nous qui le faisons. C'est on se laisse transformer. C'est comme soyez remplis de l'esprit. C'est à peu près la même pensée d'ailleurs. Et soyez transformés, donc c'est Dieu qui va faire le travail, mais on se laisse faire. Soyez transformés, impératif passif, c'est l'œuvre de Dieu. Transformer ici, c'est métamorphose. Donc c'est comme Jésus sur la montagne qui a été transformé, métamorphosé devant les yeux des disciples. Et c'est aussi 2 Corinthiens 3, nous sommes transformés en la même image quand nous le contemplons. D'où l'importance des évangiles, de la lecture de tous les détails de sa vie justement pour le contempler comme offrande de gâteau, le voir dans la beauté de sa personne. Et c'est dans les évangiles qu'on le voit. Parce qu'en le contemplant, on est transformé. C'est-à-dire que notre façon de penser est transformée en regardant comment lui fait. Ça, c'est quand on le regarde dans les évangiles, mais on peut aussi le contempler, bien sûr, dans l'Apocalypse. On peut le contempler un peu dans tous les écrits du Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament avec des images. Donc tout ce qui nous va nous faire mieux comprendre le Christ, eh bien, ça va nous transformer. Comme le dit ce texte de 2 Corinthiens 3, 18, quand nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image. Voilà, donc si le monde nous contrôle, eh bien on risque d'être conformes, d'être des conformistes, alors que si c'est Dieu qui contrôle nos pensées, eh bien nous serons transformés et on pourra être aussi être des transformateurs, des gens qui interviennent positivement. C'est un processus qui est permanent, hein, ce n'est pas non plus une fois pour toutes, c'est une transformation qui conduit le renouvellement de votre entendement, donc c'est nos pensées qui sont changées, et c'est quelque chose de continu qui n'est pas une fois pour toutes. Ce qui fait qu'il nous faut de la patience envers toute personne qui grandit dans la foi, soit parce qu'elle est jeune d'âge, soit parce qu'elle est jeune dans la foi, avoir la patience pour laisser que cette transformation ait lieu, et aussi pour les gens qui ont plus d'années dans la foi, ne pas penser qu'ils ne sont pas concernés par cette transformation et ce renouvellement de notre entendement, donc de notre façon de penser. On a Éphésiens 4, après avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. Et donc notre consécration à Dieu était fondée dans les compassions de Dieu et elle est motivée par ces compassions de Dieu, elle prend ses racines dans nos pensées, des pensées qui ne sont pas conformes à l'esprit du monde, mais qui sont transformés, renouvelés, en contemplant le Christ. Et le texte termine, « Vous soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, donc de votre façon de penser, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » Donc, parfois, on cherche évidemment à discerner la volonté de Dieu. On aimerait bien savoir où est-ce qu'il nous mène. Et peut-être que ce texte nous donne une clé, parce qu'on peut se demander, mais est-ce que nous avons commencé par le sacrifice de nos corps? Est-ce que nous avons commencé cette démarche de rechercher la volonté de Dieu par le sacrifice de nos corps? Priorité pour Dieu, une vie de pureté conduite par lui, une vie au service des autres. Est-ce que j'ai commencé par ça? Ensuite, est-ce que je me laisse mouler complètement par le monde, par la pensée unique du monde? Est-ce que je suis dans le moule? Ou bien est-ce que mes pensées sont tournées vers le Christ, vers le Seigneur Jésus, pour être métamorphosées, pour changé complètement grâce à cela. Et en fait, ça donne sûrement un peu une clé pour être dans le discernement de sa volonté et aussi pour aligner un peu notre volonté à la sienne. Parce que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu qui va être bonne. Bonne pour moi, bonne pour les autres, bonne en soi, le bien de Dieu. Agréable, c'est le même agréable que tout à l'heure. Donc c'est agréable pour Dieu. Paf. Peut-être des fois, elle n'est pas très agréable pour moi. Mais pareil, est-ce que j'ai en vue que c'est sa volonté qui s'accomplit ? Elle est agréable pour lui. Elle est une bonne odeur pour lui. Et elle est parfaite parce qu'elle atteint le but. Et si mes pensées ont été, si mon entendement a été renouvelé, si j'ai été transformé, forcément, ma volonté, mes pensées, est beaucoup plus aligné sur les siens. Et si mes pensées, si ma volonté est alignée sur la sienne, alors c'est plus facile de comprendre que cette volonté est bonne, qu'elle est agréable pour lui et qu'elle est parfaite, qu'elle atteint son but. Ce qui fait que si on revoit nos deux versets, on pourrait y voir qu'on a été invité à donner nos corps au début, à donner nos pensées au milieu du verset 2, au début du verset 2, avec l'entendement, avec la transformation, et à la fin, donner notre volonté. Hein? Corps, pensée, volonté. Un commentaire anglais nous disait aussi, avec ces trois verbes, de nouveau avec les trois lettres, c'est pas Monsieur McGee, c'est un autre. Dedication, discernment, delight in God's will. Donc, on est consacré à Dieu, on discerne sa pensée, on est en ligne et après on va être heureux dans sa volonté. Dedication, discernment, delight in his will. Et un autre commentateur faisait aussi un peu de grammaire, mais disait que finalement l'impératif éthique qu'on a là, qui est finalement « je vous exhorte », je vous exhorte à offrir, je vous exhorte à être transformé, à reconnaître la volonté de Dieu. Cet impératif éthique, il est fondé sur l'indicatif du sage. Impératif indicatif. Moi, je n'avais jamais compris que la grammaire, c'était simple comme ça. En fait, l'indicatif, c'est j'indique, c'est je dis les choses. Et c'est toute l'Épître aux Romains, chapitre 1 à 11, toute la richesse de l'œuvre de Dieu. Et après cet indicatif qui nous est donné, alors il y a l'impératif éthique qui est de faire sa volonté, de rentrer dans la consécration, d'avoir la priorité sur notre Dieu, l'Holocauste, d'avoir une vie qui l'honore en pensant à la sienne, qui honorait Dieu, et d'avoir une vie au service et disponible pour les autres, comme lui-même l'était dans sa vie, et comme lui-même, par son sacrifice, en a fait le fondement. Je vous remercie.